la première communication qui va s'intituler « Communauté, féminisme et éco-éthique face aux défis du troisième millénaire » va être donc présentée, faite par deux personnes en même temps. Donc nous avons Laura de la Fuente López, donc qui est doctorante en traduction à l'université de Salamanque, qui travaille sur les théories décoloniales et s'occupe également de traduction littéraire caribéenne avec un arrière-fond, un arrière-plan féministe. Et donc la deuxième personne est Luis Espericueta, donc qui est donc docteur en doctorat de philosophie à l'université de Grenade et qui a également travaillé en tant que défenseur des droits humains des communautés autochtones au Mexique.
Bonjour à toutes et merci beaucoup aux organisatrices et au public. Nous sommes vraiment ravis de partager ces journées avec vous. Pour détendre, je vais commencer directement. Au milieu des montagnes guatémaltèques et des quartiers boliviens, deux groupes, des femmes Xinka et Aymara, s'est consacré à éliminer la violence dont les femmes autochtones en sont victimes et ont commencé au tournant du XXIe siècle à organiser toutes leurs expériences et à les condenser dans ce qu'elles sont appelées le féminisme communautaire. Ce courant a émergé au sein de luttes très concrètes, étant le fruit de l'activisme des femmes indigènes d'Amérique latine contre l'extractivisme qui dégrade leurs terres. Ainsi, au cœur de la militance, ces promotrices se sont consacrées à la création de certaines catégories conceptuelles utiles dans leur quête de libération et des praxis. C'est un peu ces rapports entre réflexion et action dont parlait hier Diane Lamoureux. Alors, l'un des traits caractéristiques du féminisme communautaire est son fort rejet de la modernité et de la postmodernité européenne. Ces militantes sont en fait très critiques à l'égard des bastions de la modernité telles que la raison, le progrès ou le libéralisme, car elles les considèrent comme des outils ayant servi à la domination de leur peuple. Parallèlement, elles critiquent l'académie hégémonique qui cherche à monopoliser et exporter la théorie qu'elles considèrent comme la seule valable et reprochent que de nombreuses revendications féministes se soient alliées avec les systèmes économiques et politiques actuels, étant neutralisée et réduite à des simples politiques d'équité des genres. De même, le féminisme communautaire tente de se distancier à la division désormais classique entre féminisme de l'égalité et de la différence, en considérant ces deux pôles comme un symptôme caractéristique de l'androcentrisme et de l'individualisme de la modernité. C'est pourquoi elles choisissent de référer leur travail à la communauté. D'autre part, bien que ce mouvement trouve ses origines dans le peuple originaire, la communauté qu'il conçoit ne se limite pas à un groupe composé uniquement de personnes autochtones. Les mots communauté ne doivent non plus être interprétés uniquement d'un point de vue géographique, économique ou politique. En effet, il ne se réfère pas simplement à une ville, une commune rurale ou un pays, mais elles conçoivent la communauté comme un principe inclusif qui prend soin de la vie. C'est une conception que l'on pourrait en quelque sorte associer à la pensée tentaculaire de Donna Haraway. Donc, ces soucis de la vie a pour objectif, dans les cas du courant bolivien, le sumac camaña, une expression aymara qui peut se traduire par bonne coexistence. Et coexister pas seulement avec les personnes, mais avec tous les êtres vivants, et même avec l'espace et avec les temps, comme nous allons le voir plus tard. Compte tenu de ces considérations, nous pouvons énoncer les catégories constitutives de la communauté, à savoir le corps, l'espace, le temps, la mémoire et les mouvements. Il faut souligner que ces cinq éléments ne sont pas du tout des entités fermées, mais dynamiques et interdépendantes. Lorena Cabnal, concernant le corps, raconte que les femmes autochtones du Guatemala ne comprenaient pas comment il était possible que les sons de leur village exigeaient au gouvernement et aux entreprises de respecter les masses d'eau et les montagnes, alors qu'eux-mêmes ne respectaient pas le corps des femmes. Donc, prendre soin des corps est l'un des principaux objectifs du féminisme communautaire. Cependant, ce courant ne conçoit pas les corps comme des choses abstraites ou des unités autosuffisantes, mais comme des êtres interdépendants et relationnels. C'est-à-dire que pour elle, reconnaître l'inviolabilité des corps, et ça veut dire reconnaître l'inviolabilité de tous les corps, y compris les corps non humains.
Précisément, inspiré par ces soins inclusifs de la corporalité, nous avons voulu retrouver quelques indices de ce que nous appellerions aujourd'hui des éléments d'éthique animale dans la culture maya quiché présente au Guatemala. Et nous avons remarqué que dans les Popol Vuh, un livre qui contient une grande partie de la cosmovision quiché, on peut déjà observer une responsabilité éthique envers les animaux non humains. Par exemple, le texte nous apprend que les animaux allaient voir les dieux pour se plaindre des coups qu'ils recevaient de la part des humains. Il est intéressant de mentionner que dans d'autres cosmovisions mésoaméricaines, non seulement les animaux avaient le pouvoir de dénoncer les mauvais traitements, mais ils pouvaient directement punir les humains pour les dommages subis. Par exemple, dans les peuples nahuas, les chiens Xoloitzcuintle étaient celui qui guidait les morts dans les mondes souterrains. Donc, si les gens ne prenaient pas soin des chiens, même les chiens d'autrui, les Xoloitzcuintle ne se laisseraient pas traverser la rivière qui délimite les mondes des vivants et des morts. Les faisant errer désorientés pour l'éternité. Pour en revenir à la tradition maya dans les Popol Vuh, c'est possible d'identifier une dette préoriginaire de l'humanité envers les animaux. En fait, on pourrait dire que selon ces textes, sans l'intervention des animaux, les humains n'auraient pas pu exister. Car après que les dieux ont raté dans leur tentative de créer des humains à l'aide des matériaux peu propices, quatre animaux leur ont apporté du maïs pour créer la génération actuelle d'humains.
On voit alors comment ces cosmovisions intègrent dans le récit d'autres espèces compagnes, comme nous invite aussi Donna Haraway. Donc la sympoyesse dont elle parle était déjà présente sur les mythes fondateurs des cultures mésoaméricaines. Ainsi, contrairement à d'autres textes sacrés où les animaux et la nature sont totalement soumis au service de l'humanité, nous pouvons trouver dans les Popol Vuh et les anciennes cultures amérindiennes des éléments d'une éthique écologique. De cette façon, le corps de la Terre, ainsi que celui des humains et des non-humains, se trouve dans la toile de la vie, comme dirait Lorena Capnal. Ainsi, ce féminisme milite pour une communauté ouverte où tous les corps sont inclus. La défense du corps et la protection de la Terre, on voit que ce sont étroitement tissés dans le féminisme communautaire. C'est précisément pour cela que Lorena Capnal parle du territoire corps-terre. Et je cite, « Les violences historiques et oppressives existent autant pour mon premier territoire, le corps, que pour mon territoire historique, la terre. » Mais ici, la terre et le corps ne sont pas considérés du point de vue néolibéral comme des propriétés individuelles, mais comme faisant partie de la communauté qui devient territoire dès qu'une violence est perçue. Dans ce sens, nous pouvons interpréter, lorsque Lorena Capnal met l'accent sur l'expression « récupération et défense », que la récupération n'a lieu que lorsqu'il y a expoliation et la défense n'a lieu que lorsqu'il y a attaque. Autrement dit, notre corps est partagé, par exemple, lorsque nous parlons avec nos voisins, lorsque nous caressons un chien, lorsque nous avons de relations sexuelles consensuelles, lorsque nous sèmons du maïs, lorsque nous nageons dans une rivière. Cependant, dès que nous sommes menacés par une violence, cette dimension partisan du corps, compris comme territoire, est activée. Donc, bien que ce courant féministe soit directement né des luttes indigènes contre les méga-projets extractivistes, nous ne devons pas comprendre l'espace uniquement comme un ensemble de parcelles rurales. En fait, l'espace communautaire peut se trouver n'importe où, même au sein de la ville. En effet, lorsque nous, les femmes, disons légitimement que nous voulons marcher en toute sécurité dans les rues, nous sommes en quelque sorte en train de réclamer l'inviolabilité du territoire corps-terre. Cependant, protéger cet espace urbain ne signifie pas seulement sauver les rues des mains des délinquants sexuels et les laisser comme un espace neutre des simples transis. Il est également nécessaire de les doter de vitalité et les considérer comme les déploiements de nos corps.
En ce sens, nous croyons personnellement que les rues doivent être comprises davantage dans le sens de sa traduction nahuatl cuyahuac, qui signifie à peu près « dehors ». Ce « dehors » n'est pas l'extérieur, qui a un suffixe comparatif des supériorités et peut désigner ce qui est étrange, étranger, mais renvoie plutôt au « forum ». où l'on s'exprime, où les voix signes communiquent, les situations améliorées dans les quartiers, ou bien à la place où l'on manifeste contre une loi injuste.
Ainsi, le slogan féministe, au lieu de dire « nous voulons marcher en toute sécurité dans les rues », pour être plus ambitieux et proclamer « nous voulons vivre en sécurité dans les rues ». Et puisque vivre, c'est toujours coexister, il est nécessaire de reconquérir la ville également pour les autres êtres qui sont vulnérables, comme les plantes et les animaux non humains. En effet, les villes sont devenues si hostiles à la vie animale que non seulement les espaces verts sont absents, mais que dans certains endroits, les arbres eux-mêmes sont devenus les ennemis des animaux. Les villes sont également de moins en moins accueillantes pour les personnes. Il existe peu d'endroits pour s'asseoir et se reposer, et s'il y en a, ils sont conçus de telle manière qu'il est impossible pour les sans-abri de se coucher. L'architecture dissuasive utilise une série d'astuces pour transformer les villes en espaces inaccessibles qui ne peuvent être atteints que par des moyens commerciaux. De même, les personnes présentant une diversité fonctionnelle souffrent d'hostilité urbaine, bien évidemment, et par conséquent, la défense de l'espace consiste également à rendre la structure de la ville universellement accessible. Donc, en bref, lorsque l'on parle de l'espace en tant que les mains de la communauté, il ne faut pas le comprendre de manière univoque ou un lieu extérieur au corps, mais comme une caractéristique inhérente à l'existence. Alors, concernant les temps, le temps est un élément qui a beaucoup été associé à l'espace, mais je vais passer vite fait parce que justement c'est un élément dont aujourd'hui nous ne disposons pas en abondance. Mais on peut dire que le féminisme communautaire a deux fronts principaux de lutte temporelle. D'une part, éliminer la sous-valorisation du temps des femmes par rapport à la surestimation du temps des hommes. Et d'autre part, se libérer de l'imposition temporelle du colonialisme et du capitalisme. Conçu comme une ligne diagonale et téléologique associée à l'idée de progrès, l'idée de développementiste des progrès. En ce qui concerne la mémoire, pour le féminisme communautaire, la récupération du passé devient ici un principe non seulement politique ou épistémologique, mais aussi écologique. Par opposition à une généalogie dirigée par les lignées patrilinéaires, les féministes communautaires parlent d'une féméalogie. Faire de la féméalogie consiste à rendre visible l'histoire des femmes, à sauver leurs connaissances, à rédimer leur expérience et à reprendre leur lutte. Elle tente alors d'unir les expériences des femmes, non pas comme une simple série d'anecdotes isolées, mais comme de racines qui nourrissent l'arbre des luttes féministes actuelles, représentées dans diverses ramifications.
Au Guatemala, les féministes communautaires, en faisant de la féméologie avec les grandes mères de la communauté, se sont attelées à la tâche de récupérer progressivement la langue xinca qui avait été presque entièrement déplacée par l'espagnol. De même, cherchant à mettre fin à la famine qui règne dans leur région et utilisant des techniques agroécologiques, elles ont sauvé certaines graines qui étaient en voie d'extinction. La récupération et la défense de la féméologie devient ainsi un objectif aux effets écologiques, puisque la connaissance de la nature des ancêtres, transmise par ligne maternelle, joue un rôle essentiel dans de nombreuses communautés. En Amazonie brésilienne, par exemple, des études ont montré que par rapport aux hommes, les femmes sont capables d'identifier un nombre beaucoup plus important de plantes, qui ne sont pas seulement utilisées comme nourriture, mais aussi comme médicaments. Ce savoir médicinal traditionnel que les femmes possèdent a servi à préserver la santé de tous les êtres qui habitent la communauté, y compris les non-humains. C'est le cas des habitants de Los Pastos en Colombie, où, avec l'aide de l'ONG Agronomes et Vétérinaires sans frontières, ils ont compilé dans un manuel la plupart des connaissances traditionnelles en matière de santé animale et ont confirmé leur efficacité. Ceci dans l'intention de prendre soin de la mémoire et de ne pas dépendre des produits chimiques qui ont appauvri les sols, les animaux et les capacités mentales des communautés. Et en se rappelant que de la santé animale dépend aussi la santé humaine.
Finalement, le mouvement est pour elle la condition sine qua non qui permet l'interaction avec d'autres êtres. Une communauté vivante est toujours en relation avec d'autres, c'est pourquoi personne ne devrait aspirer à entraver le mouvement d'un autre. Par conséquent, nous croyons que respecter le mouvement dans son contenu relationnel signifie aussi revendiquer le droit à la mobilité nationale et internationale. Mais promouvoir la mobilité des animaux non humains est également d'une importance vitale pour les communautés. Malheureusement, plusieurs études ont montré que les déplacements de nombreux mammifères sont gravement affectés dans les endroits où l'empreinte humaine est élevée. Ce bilan est extrêmement alarmant si l'on considère que dans l'Anthropocène ou Capitalocène, entre 50 et 70% de la surface de la Terre a déjà été modifiée par les activités humaines. Ainsi, la diminution de la mobilité des animaux a et aura des conséquences désastreuses non seulement pour les espèces en question, mais aussi pour la planète entière. En effet, les mouvements des animaux sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes, car il s'agit comme des liens mobiles et des médiateurs dans des processus clés tels que la dispersion des graines, la dynamique du réseau alimentaire, ainsi que la dynamique des maladies. Comme nous pouvons le constater, le mouvement est le fondement de toute vie sur notre planète, car il est non seulement essentiel aux cultures humaines, mais aussi à l'existence des plantes et des animaux.
Comme l'écrit l'auteur-compositeur uruguayen Jorge Drexler, lo mismo que con las canciones, los pájaros, los alfabetos, si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Donc, comme nous l'avons vu, la communauté, que conçoit ce féminisme latino-américain, combine les luttes pour l'écologie et pour l'égalité. Donc, pour ces militantes, il est impossible d'affronter l'avenir sans esprit communautaire. Mais toute communauté doit prendre en compte les corps, les espaces, les temporalités, les mémoires et les mouvements. Ainsi, à partir de ces 5 éléments, nous avons pu dériver une série de revendications éco-éthiques, à savoir reconnaître la diversité corporelle, ressignifier le concept spatiaux, revendiquer les temps en tant que processus et droit naturel, accepter l'indissociabilité d'une double écologie environnementale et épistémologique, identifier et promouvoir le potentiel de la mémoire dans la protection de la vie, et enfin, étudier et respecter la mobilité humaine et non humaine. Il est donc nécessaire de valoriser la capacité des expériences et de la pensée du féminisme communautaire à formuler des lignes directrices permettant d'orienter les luttes pour leurs droits. Et en effet, ce concept de communauté a eu une utilité très pratique et concrète dans la vie de ces femmes et a révélé une éco-dépendance qui devient aujourd'hui urgente d'assimiler. C'est pourquoi leurs histoires nous incitent à faire face à des nouveaux défis du troisième millénaire, en plaçant les féministes et la communauté au centre, en tant que réseau qui prend soin de la vie humaine et non humaine. Merci beaucoup.
Donc, on va enchaîner avec la deuxième communication, dont le titre est « Le soin écologique et le soin de la nature, ce que doit l'éthique environnementale anglo-saxonne à la critique écoféministe ». Donc, une communication de Valentine Bailly, qui est en train d'effectuer un doctorat en co-tutelle à l'Université de Laval au Québec et avec l'Université Côte d'Azur. Sa thèse porte sur la notion de bien-être, donc en lien avec la nature.
Bon, écoutez, merci beaucoup. Je remercie bien sûr les organisatrices de me laisser la parole. C'est pour moi vraiment un honneur d'être là. Bon, étant en doctorat, bien sûr, mes recherches ne sont pas tout à fait encore abouties, mais j'espère que ça permettra quand même d'avoir une discussion intéressante. Et voilà. J'aimerais commencer ma présentation avec la question rhétorique suivante. Que peut nous apprendre la philosophie et le féminisme sur la crise écologique ? Donc, on considère la crise écologique uniquement comme un défi techno-scientifique pour décarboner l'économie et en faire perdurer le capitalisme, alors peut-être rien. Mais il se pourrait que la crise écologique soit le symptôme d'un problème culturel plus profond et que le féminisme, comme la philosophie, ait leur mot à dire. Cette perspective est celle de la philosophe écoféministe Val Plumut, que l'on a déjà évoquée, qui révèle des logiques inhérentes à la culture occidentale qui participent tout autant au système patriarcal qu'à l'exploitation de la nature. Et dans cette présentation, je souhaiterais aborder la question de la pertinence de cette proposition théorique. Alors, même si l'écoféminisme de Plumut, comme on l'a vu, a été l'objet d'un intérêt grandissant de la part des philosophes francophones, sa perspective écoféministe a été avant tout discutée au sein de la philosophie de l'environnement, qui est devenue aux États-Unis et en Australie un véritable champ d'investigation depuis les années 1970. C'est pour ça que je vais m'intéresser plus spécifiquement à l'apport théorique que représente Plumut et son écoféminisme vis-à-vis de la philosophie environnementale anglo-saxonne. Là où la philosophie de l'environnement croise l'écoféminisme de Plumut, c'est qu'elle s'efforce également de problématiser la question de la crise écologique en mettant à jour ses racines culturelles. mais elle le critique simplement d'un angle éthique. Une première manière de considérer l'apport de Plumwood, ce serait de penser qu'elle politise les enjeux relatifs à la crise écologique. Mais dans ces cas-là, est-ce à dire que Val Plumwood et son écoféminisme délaissent totalement la perspective éthique au profit de la perspective politique ? Et que c'est même dans ce geste-là qu'on retrouve tout l'intérêt de l'écoféminisme de Plumwood vis-à-vis de l'éthique environnementale anglo-saxonne. Dans cette présentation, je souhaiterais montrer que l'apport théorique de Plumwood vis-à-vis de la philosophie environnementale est de l'ordre également éthique. Alors, mon but n'est surtout pas d'opposer de manière très rigide éthique et politique, mais c'est plutôt de montrer que tout l'intérêt de Plumwood est peut-être dans la continuité qu'elle révèle entre éthique et politique pour penser les problèmes et les solutions liées à la crise écologique. Alors, j'aimerais revenir simplement un petit peu sur la perspective anglo-saxonne, car il me semble que je ne sais pas si tout le monde est très à l'aise avec cette philosophie-là, et ensuite je parlerai de l'apport de Plumwood. La philosophie anglo-saxonne, il faut comprendre qu'elle est liée... Non, tu peux laisser encore. Il faut comprendre qu'elle est d'abord centrée sur une visée donc éthique et éthique de la conservation des entités naturelles. On retrouve notamment cette thèse chez Richard Sylvan, qui était accessoirement aussi l'ex-mari de Val Plumwood. Et donc Val Plumwood a vraiment beaucoup participé aussi à cette philosophie-là. Il revendique la nécessité d'un changement au sein de l'éthique, un changement d'attitude, de valeur et d'évaluation. Alors, au commencement de ce projet réside une critique de la culture occidentale et plus exactement de son système de valeurs. Pour Sylvan, le véritable problème des moralités traditionnelles et occidentales, c'est qu'elles confèrent aux êtres humains uniquement un intérêt, une valeur plutôt selon l'intérêt des êtres humains. C'est une valeur utilitaire. Et c'est ce que souvent les philosophes de l'environnement vont appeler l'anthropocentrisme. Le véritable problème de l'anthropocentrisme, c'est la trop grande permissibilité des moralités traditionnelles vis-à-vis des actions des êtres humains dans la nature. L'idée, c'est que comme les actions des êtres humains sont jugées moralement problématique que en fonction des intérêts de ces derniers. Si une action n'a pas lieu d'intercéder contre les intérêts des êtres humains, alors, même s'il y a une dégradation de la nature, ce n'est pas grave. Face à ce trop grande permissibilité, ce manque de restrictions, les philosophes de l'environnement vont proposer une éthique de l'environnement fondée sur la notion de valeur intrinsèque, qui est vraiment le contraire de l'anthropocentrisme et qui est l'idée d'une valeur inhérente, une valeur morale inhérente à la nature. Et toutes les philosophies de l'environnement, ou de l'éthique environnementale plutôt, vont fonder une norme de respect envers la nature sur la valeur intrinsèque de la nature. Et ce qui est intéressant pour notre propos ici, c'est que Val Plumwood va reprendre cette critique de l'anthropocentrisme. Merci beaucoup. Et elle va reprendre cela en se fondant sur des critiques féministes. J'en profite aussi qu'il y a tout un pan de la philosophie de Val Plumwood qui est aussi anticolonial, mais bon, pour des raisons de temps, mais aussi d'expertise. Il y a des personnes qui ont fait des exposés beaucoup plus intéressants que moi et ont une plus grande expertise là-dessus. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais je ne voudrais pas invisibiliser non plus cette perspective de Val Plumwood qui est très intéressante également. Plus exactement, Val Plumwood, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle propose une critique de la culture occidentale sous l'angle d'une analyse de l'identité personnelle à laquelle elle se réfère sous le concept de soi, le self. Et elle dégage alors des structures logiques qui lui permettent de rendre compte de l'identité humaine dans la culture occidentale. Et pour elle, ces structures logiques sont dualistes. Alors j'imagine que vous êtes probablement peut-être déjà un petit peu familier de la pensée de Plumwood, mais il me semble que c'est intéressant de voir que dans les dualismes de Plumwood, il y a déjà l'idée d'une hyper-séparation, c'est-à-dire d'une forme d'identification où le soi se définit par une négation systématique de ses similarités avec ce qui lui est autre. Pour Plumwood, on retrouve typiquement ces structures dans les relations des hommes et des femmes, mais aussi dans les relations des humains et de la nature. C'est-à-dire qu'il y a une analogie qu'elle met en place et qu'elle critique. Pour Plumwood, ça pourrait faire référence notamment au fait que les femmes sont davantage associées à la matérialité, et tandis que les hommes vont être, dans les cultures traditionnelles occidentales, vont être davantage associés à la rationalité, et en cela valorisés. Et pour les relations humain-nature, les humains vont être davantage associés à la raison, tandis que la nature va être associée à un manque de rationalité, un manque d'agentivité, de passivité, et ainsi dévalorisée. De plus, pour Plumwood, il y a un mode de relation spécifique à la nature et aux êtres humains dévalorisés, qui vont, notamment les femmes, qui va être mise en place. C'est ce qu'elle appelle l'instrumentalisation, et qui est une manière donc, de considérer l'autre comme entièrement un moyen pour les fins du soi. Dans la culture occidentale, on retrouve cette idée pour Val Plumwood, notamment dans les relations, encore une fois, hommes-femmes. L'idée notamment qu'elle critique, c'est que les femmes ont une valeur instrumentale, notamment et pas, majoritairement pour la culture occidentale. Elle renvoie par exemple à l'idée de la bonne épouse qui doit prendre soin des enfants, des parents quand ils vieillissent. Mais il y a aussi cette même idée avec la nature. Et là, je pense que si j'ai bien expliqué ce que je voulais dire, on rejoint l'idée d'un anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, elle critique l'idée de la valeur utilitaire de la nature, mais elle le met en rapport avec l'instrumentalisation de certains groupes humains, et notamment des femmes. Ce qui se passe alors, et c'est là tout l'intérêt, il me semble, c'est qu'il y a une politisation de la notion d'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme et l'instrumentalisation de la nature participent à des phénomènes de domination plus larges et intra-humains, s'exerçant notamment à l'encontre des femmes. Et pour le dire comme Laïla Raïd, elle met en exergue donc la continuité entre les situations des femmes et celles de la nature. Les femmes sont associées, comme la nature, à un même destin ancillaire, et en définitive, l'anthropocentrisme devient le pendant d'un androcentrisme. Alors, en conséquence, Plumwood va proposer ce qu'elle appelle, je vois que j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais peut-être avant vous dire que pour Plumwood, l'idée de l'hyper-séparation et l'idée de l'instrumentalisation sont très strictement liées. C'est-à-dire que c'est que le soi humain et le soi masculin sont complètement hyper-séparés des autres, qui sont altérisés, la nature et les femmes, et c'est pour ça qu'ils sont instrumentalisés. Entre guillemets, ils sont tellement conçus séparés qu'ils ne voient plus les fins, les aspirations, les besoins des entités naturelles comme d'autres groupes humains, et les résistances que cela pourrait constituer vis-à-vis de leurs propres désirs. Vulgairement, ils font ainsi ce qu'ils veulent de la nature, mais aussi de d'autres groupes humains, comme les femmes. En conséquence, Val Plumwood va proposer une nouvelle définition de l'identité. Cette fois-ci, pas une identité hyper séparée, justement, vu que c'est le problème, véritablement, mais une identité relationnelle. Et enfin, ce qui m'intéresse pour cette présentation, c'est que, bien que le problème est ici d'instrumentalisation et politisé, et de l'anthropocentrisme et l'androcentrisme sont des problèmes politiques, on a une réponse qui est éthique de la part de Plumwood, et c'est dans ce jeu-là que je pense qu'il est intéressant de voir une continuité entre éthique et politique. Est-ce que tu peux... Merci beaucoup. Plus exactement, Val Plumwood va proposer ce qu'elle appelle le soi écologique. Alors le soi écologique, c'est vraiment la solution qu'elle envisage au problème d'instrumentalisation dans les rapports humain-nature, mais il me semble que cette solution est, et elle le dit, mais dans Mastery of Nature, elle va moins le thématiser, elle est aussi un problème à l'instrumentalisation dans la structure générale d'instrumentalisation, notamment qui concerne aussi les rapports intra-humains. Le soi écologique se distingue donc de l'instrumentalisation parce qu'il se caractérise par l'intégration des fins des non-humains parmi les fins propres du soi. Cela fait spécifiquement référence, parce que j'ai conscience que c'est un peu abstrait, à des expériences, il me semble, d'épanouissement des autres entités naturelles et qui sont reliées à notre propre épanouissement en tant qu'humain. Par exemple, je vais être en peine quand je prends conscience que l'intégrité de certains milieux dans lesquels j'habite est menacée par le changement climatique. Et on comprend l'aspect véritablement relationnel de cette conception de l'identité, c'est que les fins des non-humains, comme des humains, sont interdépendants. Et pour Plumwood, ce soi écologique est intrinsèquement lié à une nouvelle manière d'agir dans la nature, qui est non destructrice envers cette dernière, et qui puisse même contribuer, en certains cas, activement à sa sauvegarde. C'est celle du care. Le care compris comme une attention envers la nature et comme un prendre soin envers cette dernière. Le care va être ensuite considéré avant tout comme une éthique, car il est fondamentalement lié à l'idée d'une valeur intrinsèque et ainsi même évalué moralement. Si le CARE est éthique pour Valplumoute, c'est qu'il permet de respecter la valeur intrinsèque de la nature. Et pourquoi il permet de respecter la valeur intrinsèque de la nature ? Parce que le soi écologique suppose l'intégration des fins humains, l'intégration des finalités des non-humains parmi les fins propres du soi écologique, et donc de valoriser la nature pour elle-même. Si vous voulez, dans le soin, dans l'un care compris comme une attention, c'est une manière pour moi d'intégrer les fins des non-humains, et que le soin compris comme un prendre soin, comme une activité, c'est une manière pour moi de participer à la réalisation des fins des non-humains. Alors, parce que c'était un petit peu l'objet de ma présentation, quel est l'apport finalement de cette éthique du care environnemental vis-à-vis des éthiques du care anglo-saxonne ? Il me semble que l'apport est vrai, véritablement, s'il y en a un, mais on pourrait discuter ça plus longtemps, c'est que les philosophies de l'environnement sont éminemment restrictives. Il s'agit d'encourager sur le plan d'action le plus possible la retenue des êtres humains vis-à-vis des entités naturelles. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma première partie. À l'inverse, celle du care avec Plumoute encourage une forme d'interaction avec la nature, celui d'un prendre soin. Et alors ça ne s'oppose pas nécessairement à la philosophie de l'environnement. On a vu qu'il y a vraiment des ponts entre la valeur intrinsèque, l'anthropocentrisme, mais plutôt la perspective de Plumoute ici, c'est un enrichissement de la philosophie de l'environnement. Sa perspective montre qu'il y a une manière d'interagir avec la nature qui est éthique et qu'il ne s'agit pas seulement toujours de restreindre son action envers la nature. Alors, pour terminer, je m'arrêterai là. Je parlais beaucoup plus vite que ce que je pensais, donc j'ai encore un petit peu de temps, mais je vais quand même m'arrêter là. Je crois que vraiment pour comprendre quand même l'enrichissement de Valplumoute, il faut remettre aussi dans un contexte anglo-saxon qu'on n'a pas forcément en tête, mais qui est quand même l'idée derrière de la wilderness et qui est donc l'idée que la nature était avant tout construite, enfin, et qui a été extrêmement critiquée parmi les écoféministes justement, avant tout construite comme une forme de nature intouchable, où l'être humain doit être qu'une trace, ne doit laisser aucune trace, et donc et qui doit se réduire justement à un simple voyageur, à la simple visite de ces espaces. Alors justement, Plumoute, en tant que avec le CARE, montre que l'être humain ne peut être bien plus qu'un simple voyageur ou visiteur dans les espaces. Il peut être un prodigueur de soins. Voilà. Merci beaucoup.
Voilà. Alors pendant les dernières installations techniques, donc je vais vous présenter la prochaine contribution, donc, qui s'intitule « Pour une théorie politique du CARE plus qu'humain ». Contribution qui va être apportée par Lena Zilbert-Zahn, qui est donc doctorante à l'IUP de Paris en théorie politique, et qui soutient, on va dire dans 10 jours, une thèse sur la peur écologique.
Merci beaucoup pour l'introduction, merci pour l'organisation, pour la présence de tout le monde dans cette deuxième journée. Je vais vous présenter les bouts un peu synthétiques d'un article qui va bientôt être publié, mais sur lequel j'ai pas encore fait beaucoup de présentations et j'ai pas eu beaucoup d'échanges, hormis avec quelques personnes d'ailleurs que je remercie et qui sont présentes dans cette salle. Du coup, je suis très contente d'avoir des éventuels retours. Et le but de cet article, c'est de prendre au sérieux l'hypothèse que les humains reçoivent du care de la part des non-humains et de s'intéresser aux différentes manières et d'essayer de cartographier un peu les différentes manières de théoriser ces contributions non-humaines aux vies humaines. Du coup, c'est à la fois une invitation écologique qui est adressée au féminisme, au sens où je cherche à interroger l'anthropocentrisme propre à certaines conceptions du care, mais c'est aussi une main féministe tendue à la pensée écologique que je côtoie quotidiennement, au sens où l'intuition, en fait, à la base du texte, c'est que les théories féministes du care et de la reproduction sociale peuvent offrir des outils pertinents pour visibiliser, pour dénaturaliser et surtout pour politiser les relations entre vivants humains et non-humains, et que les outils féministes sont peut-être, à certains endroits, plus pertinents et peuvent peut-être mieux nous orienter politiquement que d'autres notions qui sont très en vogue en ce moment dans les humanités environnementales et qui vont partager une grammaire commune avec le care. Je pense notamment aux notions d'attention, d'émerveillement, beaucoup autour des affects écologiques, etc. Mais sans pourtant souvent partager, en tout cas, l'ambition critique et politique des théories du care. Donc, l'article original, il est divisé en 5 sessions, mais pour des raisons de clarté, d'empathie avec nos neurones de deuxième journée de congrès, on va essayer de faire en 2 temps. Je vais d'abord donner les arguments en faveur de la reconnaissance et de la conceptualisation de ce qu'on pourrait appeler ce care plus qu'humain. Et enfin, on va se poser la question de comment politiser ce care et essayer de tirer en fait les conclusions politiques et éthiques de cet état de fait. Le point de... Ah oui, donc voilà, ça c'est le plan. Donc le point de départ du papier, bah, c'est tout simplement le constat d'anthropocentrisme de la plupart des théories du care. Si on pense à la définition la plus citée aujourd'hui dans les théories du care, c'est celle de Berenice Fisher et John Tronto. Le care est souvent défini comme une activité, donc je souligne, générique, qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Donc l'anthropocentrisme de cette définition, c'est pas un oubli, il est constitutif de la définition et Tronto prend la peine hein, par ailleurs de préciser plus tard que le care peut exister pour les objets et pour l'environnement, mais il est assez explicite que le « nous » de cette définition, qui est le sujet du care, explicitement humain, et d'ailleurs la formulation dans la définition anglaise est encore plus claire au sens où elle parle de « species activity », donc c'est assez clair qu'en fait les personnes qui donnent du care, même si l'environnement et les animaux peuvent être objets de care, peuvent recevoir du care, ils ne peuvent pas en donner. C'est pareil chez Nell Nodding, c'est pareil chez beaucoup en fait théoriciennes qu'on ne va pas avoir le temps là, de passer en revue, mais voilà, la question est frontalement abordée, mais rapidement évacuée, comme elle l'écrit. Les animaux peuvent recevoir du care, mais ils ne peuvent pas être pourvoyeurs de care. Et donc, c'est assez frappant de constater finalement que les théories du care, qui à l'origine sont censées éclairer un ensemble de pratiques reléguées à l'arrière-plan, dont on dépend en fait pour vivre, vont finalement être assez réticentes à admettre l'existence de réseaux de soins plus qu'humains, dont les humains dépendent pourtant au quotidien. Et c'est frappant, et c'est encore plus frappant que même chez les écoféministes, qui depuis 40 ans insistent sur l'importance des liens éthiques, des attachements émotionnels aux animaux, aux forêts, aux lieux, parfois même aux paysages, qui insistent aussi beaucoup, là on vient de l'entendre, sur le care et l'éthique du care envers la nature, on trouve finalement peu d'efforts théoriques consacrés à essayer de comprendre ce que les humains reçoivent des autres vivants. En bref, alors qu'il y a des efforts croissants et constants et depuis longtemps pour théoriser ce que même Sandra Logier va appeler un care environnemental et qui s'apparente à un care pour l'environnement, le care reçu par les humains de la part des autres vivants est plutôt relégué à l'arrière-plan. Or, si on admet que le care consiste effectivement à maintenir, perpétuer et réparer le monde, je reprends ici la définition, il semble très difficile d'exclure les non-humains de ce processus. C'est assez évident. Tout d'abord, bon, bah, y a le care au sein d'une même espèce, effectivement, hein, le care envers la progéniture. C'est même des efforts de care qui vont parfois être appropriés, notamment par l'industrie agroalimentaire. Mais il y a aussi des efforts quotidiens de care interespèce. Un exemple qui vient assez rapidement en tête, ça va être les animaux de compagnie. Et souvent, on souligne à quel point les personnes qui ont des animaux de compagnie prennent vraiment bien soin d'eux, etc. Alors que force est de constater que c'est souvent le contraire et que les chats, les chiens, etc. ont souvent en fait, pour fonction de vraiment fournir un soutien émotionnel quotidien à leurs propriétaires, être des interlocuteurs de confidence, même muets, mais souvent en fait, à une capacité d'écoute finalement assez grande. Et je pense que ce n'est pas anodin si intuitivement, en fait, on associe, il y a ce cliché, cette image de personnes sans abri ou des personnes très âgées avec beaucoup de chiens ou beaucoup de chats. Et je pense que ce n'est pas anodin au sens où intuitivement, on associe les animaux de compagnie à une fonction de soins, à une fonction de soutien et notamment envers des personnes particulièrement vulnérables et notamment envers les personnes qui ne sont pas assez prises en charge par des humains et leurs institutions. On peut dire la même chose des plantes, donc au-delà de la fée qu'elles nous permettent de respirer et sans même mentionner leur pouvoir médicinal, il y a un intérêt croissant aujourd'hui autour de la sylvothérapie, de l'écothérapie et qui atteste des capacités de soins et de soutien des plantes envers les humains. Et j'avais un endroit dans Sisters of Yam de Bell Hooks qui m'avait particulièrement marqué où elle raconte en fait une balade matinale et elle compare son environnement donc en marchant à un remède. Et elle dit avoir l'impression, donc je cite, que le monde qui l'entoure, les oiseaux, les fleurs, l'air fraîchement coupé est un baume apaisant, le genre de baume que ma mère étalait sur les différentes parties de notre corps pour soigner n'importe quelle petite blessure. Donc voilà, c'est assez flagrant en fait. Enfin, elle compare à un baume soignant. Et également à un niveau moins subjectif et moins intersubjectif, Il est évident que l'effort de maintien du monde est en grande partie le fait de processus complexes qui vont impliquer des plantes, des non-humains, des animaux, des écosystèmes entiers. On peut penser à la pollinisation des abeilles, par exemple. Donc voilà, que ce soit finalement à l'échelle planétaire, au niveau de la reproduction socio-écologique ou au niveau des dispositions de care intersubjectifs de la part d'animaux de compagnie ou des plantes qui nous entourent, on constate que les existences humaines dépendent en grande partie du soutien et d'efforts non humains. Avec Maria Pouic de la Bella Casa, qui est une des rares personnes qui a travaillé sur le sujet, il semble donc important de redéfinir le care et d'ouvrir et de faire éclater le nous du care pour le redéfinir et l'appeler, enfin, et le définir comme tout ce qui est fait pour entretenir, continuer et réparer le monde afin que tous puissent y vivre le mieux possible. Il y a bien évidemment des écueils et des revers à ce genre de démarche On peut par exemple risquer de produire encore plus d'anthropocentrisme, c'est-à-dire si on dit bon finalement les non-humains prennent soin de nous, ça peut potentiellement renforcer l'idée que en fait les non-humains sont là pour les humains, pour prendre soin d'eux et ce serait anthropocentré. Il y a l'écueil de l'anthropomorphisme qui serait d'attribuer des caractéristiques, des sentiments et des pensées humains à des non-humains, mais à ces objections, on peut répondre que l'anthropodéni serait pire. Désolée, hein, j'enchaîne les... Mais l'anthropodéni, c'est un terme que j'emprunte à De Waal pour désigner le rejet a priori de caractéristiques communes entre l'homme et l'animal alors qu'elles peuvent exister. Et donc, il appelle aussi donc, l'aveuglement aux caractéristiques humaines des animaux ou aux caractéristiques animales de nous-mêmes. Et donc, à l'opposé de cet anthropodéni, reconnaître ce qu'on pourrait donc appeler le care plus qu'humain s'inscrirait dans ce que Plumwood, donc merci d'avoir fait toute l'introduction tout à l'heure, appelle une renarrativisation des relations interespèces. Et c'est un projet qui délaisse les images de la nature et des autres vivants comme inanimés, comme machiniques ou comme, je cite, un monde de marchandises anonymes pour s'ouvrir, donc je cite, aux expériences de la nature comme puissantes, agentiques et créatives. Donc, ça, c'est un des avantages et une des réponses qu'on peut apporter aux critiques, mais je pense qu'un des principaux avantages, et au-delà de ce que Plumwood va appeler la renarrativisation pardon, des relations interespèces, le fait de conceptualiser un care plus qu'humain, c'est avant tout un moyen d'offrir un outil féministe critique à la pensée environnementale. Les théories du care s'intéressent aux relations de pouvoir. En ce sens, penser les pratiques des autres espèces en termes de care, ça peut permettre de tenir deux éléments importants ensemble, c'est-à-dire en même temps voir à quel point les contributions plus qu'humaines sont essentielles à la vie humaine et les valoriser, et de l'autre côté, nourrir un scepticisme à l'égard de la croyance qu'il est dans la nature, notamment des animaux domestiques, d'agir comme ils agissent, des arbres de garder respirables, l'air pollué des villes, etc., etc. En effet, beaucoup de non-humains sont mis au travail dans un cadre capitaliste, mondialisé, humain, donc un cadre économique très spécifique et qui participe à un projet humain qui leur est complètement extérieur. Et dans ce contexte, la théorie féministe a peut-être le pouvoir d'inviter à l'analyse des conditions injustes dans lesquelles le care plus qu'humain est apporté. Et donc, par exemple, se demander est-ce que c'est normal de mettre des chats dans des cat cafés pour apporter du soutien aux clients des cafés. Ça permet aussi de se poser la question de qui bénéficie de ce care plus qu'humain en priorité et à quels besoins on répond en priorité. Donc, par exemple, quelles communautés ont accès à plus d'espaces verts, si on part du principe que les espaces verts, c'est aussi une forme de soin et que ça répond à des besoins. Comment est-ce que ce soin et à quels besoins en fait, on répond ? En bref, voilà, ça permet de poser la question de qui fait le travail de care non reconnu et dans quelles conditions, qui reçoit ce soin en priorité, quels besoins de quelles personnes sont couverts. Et donc là, on va passer un peu aux stratégies et qu'est-ce qu'on fait en fait une fois qu'on dit d'accord, il y a du care plus qu'humain et comment justement on va essayer de politiser et d'agir politiquement par rapport à ça. Et une des voies qui est de plus en plus empruntée aujourd'hui par la pensée écologique et notamment la pensée éco-marxiste pour rendre compte des contributions non humaines à la vie humaine, c'est d'emprunter, parfois d'ailleurs sans les citer, le même chemin que les théories féministes de la reproduction sociale en considérant en fait les pratiques perçues comme naturelles comme du travail. Donc, comme l'ont souligné les théories de la reproduction sociale, que vous connaissez sans doute toutes, la frontière entre l'exploitation salariée sous contrat et l'expropriation gratuite sans contrat, c'est une frontière qui est fortement racialisée, qui est fortement genrée. Les écoféministes ont montré que cette frontière, elle dépend aussi beaucoup de la définition de ce qui appartient à la nature ou non. Dans les mots de Claudia von Werloff, donc écoféministe matérialiste de Bielefeld, du point de vue des classes dirigeantes, la nature, c'est tout ce qui devrait être gratuit. Et donc, si on prend ensemble le problème soulevé par les écoféministes, À savoir que le capitalisme repose sur l'appropriation gratuite des forces, des matières et des pratiques qu'il qualifie de naturelles, avec les réponses offertes par la théorie de la reproduction sociale, à savoir que il faut qualifier stratégiquement de travail les processus que le capitalisme s'approprie dans l'idée de les dénaturaliser. On peut se poser effectivement la question de savoir s'il ne faut pas parler du travail de la nature pour mettre en lumière justement toutes ces activités essentielles. C'est une piste assez intéressante qui est en ce moment empruntée par Paul Gilbert, par Lena Ballou, Antoine Chopeau, Alissa Battistoni aussi va parler de hybrid labor. Je pense que c'est assez intéressant, mais on va revenir quand même au fait qu'il y a certaines limites à ces stratégies. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une variation de... Ouais, ça va. Bon. Quoi? Je veux être plus... Je ne suis pas assez dans le micro? Là, ça va? Oui, pardon. Donc, la limite déjà, qui est déjà une limite pour le cœur humain, mais qui est encore plus pour le non-humain, c'est que c'est dur de salarier ses activités, qu'un salaire pour les non-humains, ça ne fait pas beaucoup sens, que comme l'ont déjà soulevé beaucoup de féministes noires, la rémunération du travail domestique effectué par des personnes racisées au sein des foyers blancs n'a pas mené à la revalorisation de ces activités. Et on peut aussi se demander dans quelle mesure la catégorisation de diverses formes d'activités humaines, mais non humaines aussi, comme travail, ça n'homogénéise pas et ça ne réduit pas les relations interspécifiques. On peut se demander effectivement si la visibilité apportée par le concept de travail et aussi par la tentative de monétiser celui-là ne crée pas finalement d'autres formes de cécité. Et si, au lieu d'étendre les processus dominants de valorisation à des nouvelles activités, il ne faut pas défaire en fait les processus de valorisation eux-mêmes. Notamment dans un contexte où plus en plus de domaines de la vie sont marchandisés, l'utilisation de cette stratégie de monétisation et du travail pour rendre visible des processus ignorés, elle apparaît un peu ambiguë. Et on peut se demander si les marchés capitalistes n'ont pas finalement depuis longtemps intégré cette demande. Donc, je pense que Chopeau, Ballot et Battistoni notamment reconnaissent ces écueils, mais leur argument, c'est que ça permet de faire émerger un sujet politique, de faire émerger une condition d'exploitation commune et que donc ça permet d'ouvrir un nouveau front de lutte. Et je pense qu'effectivement, c'est un très bon argument. Mais que si la catégorie de travail va rendre compte de manière très adéquate de l'exploitation capitaliste des non-humains partagée avec d'ailleurs l'exploitation des humains, c'est une voie stratégique qui peine à rendre compte de la dimension régénératrice et affective de certaines relations interespèces, et notamment si on parle d'arbres, de chats, de moutons en termes de travailleurs exploités par le capitalisme, on voit tout de suite que c'est une très bonne stratégie pour attirer l'attention sur les logiques d'exploitation commune, mais que ça va effacer d'autres aspects des relations. Ça ne dit pas aussi comment mieux organiser les relations interespèces qui, elles, n'ont pas vocation à être abolies. Ça dit, là, ça ne va pas, ce qu'il faut abolir, etc. Mais ça ne dit pas forcément comment mieux organiser. Et donc, ce prisme matérialiste du biotariat, comme l'appelle Moore, il est très efficace en termes de critique du capitalisme et de l'exploitation, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il soit susceptible de mener à la renarrativisation que Plumwood appelait justement de ses voeux. Et je pense que c'est là que le CAIR, en fait, peut donner un outil assez intéressant, au sens où, lui, il est susceptible de nourrir des nouveaux attachements moraux, des nouveaux modes de cohabitation, et qui met en évidence l'interdépendance, la vulnérabilité en tant que dimension centrale de la coexistence interespèces. Et c'est ce que je disais un peu au début, c'est que cette grammaire du CAIR, dans toute son épaisseur, elle peut vraiment permettre à tenir ensemble finalement l'accent mis par les humanités environnementales sur la richesse des dispositions affectives, des attachements envers le plus qu'humain, avec les ambitions matérialistes de dénonciation de l'exploitation, au sens où le CAIR, c'est toujours intrinsèquement à la fois une disposition à valoriser et un travail dont on critique les conditions de mise en œuvre et sa répartition. Donc ça permet vraiment de fournir une certaine épaisseur à la critique environnementale. Je finis là-dessus. Pour finir, j'aimerais bien esquisser quelques pistes de réponses à ce CAIR. Donc une fois qu'on a dit qu'on ne pouvait pas le travailler, pas le payer, et que le travail, c'est peut-être pas... Enfin, ça reste pertinent, mais que ça efface aussi certaines dimensions. Et j'avais envie de parler de restitution et de réciprocité, que j'emprunte pour la restitution aux féministes italiennes Federica Giardini et Anna Simone, qui écrivent dans un manifeste sur la reproduction. Elles disent « On préfère la restitution au salaire et à la gratitude ». Et elles élaborent pas beaucoup, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de définir la restitution comme le fait de rendre, de créer des circuits qui ne peuvent pas être épuisés précisément par une possibilité de payer. Et c'est assez proche de notions de réciprocité qui, pour le coup, sont très présentes dans les écrits de Robin Wall Kimmerer, qui se décrit elle-même comme mère, professeure, membre de la nation Potawatomi, qui est un peuple autochtone de la région du Haut-Mississippi, et qui va donner corps à cette notion de réciprocité en décrivant les pratiques en fait, de ce peuple. Et c'est pas du tout un idéal abstrait en fait chez elle, cette réciprocité, et elle décrit toujours en fait le kerpa comme un prendre soin, comme une protection, mais toujours quelque chose comme un contre prendre soin, contre une réponse à un soin qui nous est déjà donné. Et voilà, et donc elle décrit par exemple les cueilleurs et les cueilleuses de plantes qui vont laisser un don spirituel, mais ça peut être aussi un don matériel. On va désherber autour, on va disperser les graines qu'on vient de cueillir pour aider les plantes à se déplacer, même dans les cueillettes sauvages, etc. Et donc, il y a vraiment cette connaissance que voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un travail qu'on peut salarier, c'est pas quelque chose où on va pouvoir couper la relation en mettant fin, mais qu'il faut prendre soin en retour et que les relations ne s'épuisent jamais. Donc, c'est d'une effarante simplicité, bien sûr, hein, mais ça reste très éloigné de concepts qu'on a aujourd'hui en écologie, et notamment du concept de la durabilité, que Kimmerer donc, associe à la question de qu'est-ce qu'on peut prendre de plus à la planète. Et elle dit, en fait, la vraie question, quand on se pose la question vraiment de rendre, c'est qu'est-ce que la Terre nous demande. Et vraiment, d'opposer ces deux paradigmes, je trouve ça assez parlant dans cette question de la réciprocité. Voilà, je vais finir là-dessus, juste avant de... Pas trop. Donc voilà, enfin juste dire que c'est toujours une tentation de brandir les écologies autochtones comme solution à tous les maux en ce moment en écologie politique, et que avec les théories du CAIR, on sait qu'il faut faire attention à la romantisation, à l'exotisation pour ne pas créer des nouvelles injonctions. Mais en tout cas, je trouvais que ça incarne assez bien ce que j'essaye de dire, les écrits de Kimmerer. Donc voilà, je la cite. Je termine là-dessus. Merci de votre attention. Et c'est fini.
Donc Mona est actuellement en train d'effectuer un postdoctorat en philosophie à l'Université Saint-Louis de Bruxelles.
Merci beaucoup Estelle, merci beaucoup aux organisatrices de ce congrès. Je suis très contente d'y participer et qu'on ait l'occasion de réfléchir ensemble sur nos pratiques de philosophie et de féministe. Et merci aussi beaucoup aux personnes qui ont assisté et qui ont présenté pendant ces deux journées. C'était vraiment très 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 riche. Alors aujourd'hui, je vais présenter un chantier de recherche en cours sur... En fait, je vais me centrer sur le droit à l'avortement, mais ça s'inclut dans une réflexion plus large sur les droits reproductifs et la justice reproductive, dont je n'aurai pas vraiment beaucoup le temps de parler aujourd'hui, mais voilà. Du coup, là, l'idée, c'est que c'est vraiment une recherche en cours, et j'ai décidé, bah, en plus, comme c'est la dernière, chez la dernière à parler, j'imagine que tout le monde est fatigué, et du coup, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu narratif, hein, que j'allais peut-être raconter plus mon parcours et mettre l'accent sur les différentes... méthodes de recherche, outils de recherche que j'avais développés, plutôt que sur mes résultats, sur les résultats acquis, quoi. On pourra y revenir plus dans la discussion éventuellement. Alors, initialement, mes recherches en philo-féministe n'étaient pas du tout sur le sujet des droits reproductifs. J'ai fait une thèse sur le rôle du langage dans la construction et la déconstruction du genre par les luttes féministes et queer. Donc ça, c'était un peu l'objet principal de ma recherche. Et le deuxième objet, c'était comment comprendre, faire sens à l'idée de Butler que le genre est performatif. Je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'elle avait repris la notion linguistique de performativité pour penser le genre, et est-ce que cela faisait du langage, des discours, un endroit privilégié pour analyser la manière dont le genre est construit, imposé, incarné, subverti, etc. Alors, je suis sortie de cette thèse avec plusieurs questions, mais notamment une importante qui me rattache à ce panel, qui est la question de la nature. Puisqu'en fait, dans ma thèse, j'ai montré comment cette idée de performativité du genre va jouer un rôle dans la dénaturalisation du genre et du sexe. En fait, la dénaturalisation, bah, comme ça a été déjà beaucoup évoqué ces deux jours, c'est un ressort fondamental des pensées féministes et des études de genre qui montrent que l'idéologie de la nature joue un double rôle pour faire passer la domination pour légitime, puisque d'une part, la domination est présentée comme naturelle, fondée en nature, et d'autre part, les groupes opprimés sont assimilés à la nature, sont considérés comme plus naturels, plus proches de la nature que les autres, ce qui explique qu'on puisse les dominer. Donc il y a cet aspect-là, et en même temps, comme ça a déjà été aussi beaucoup dit dans ce panel, il est important de sortir de l'opposition dualiste nature-culture, de revendiquer notre appartenance à la nature dans un contexte de crise environnementale. On peut penser au slogan que Isabelle Stengers a cité hier et qui est très connu maintenant, donc le slogan emblématique des mouvements écologiques actuels. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Alors, la question que je me posais à la fin de ma thèse, c'était: est-ce qu'il est possible de dénaturaliser la domination tout en revendiquant notre appartenance à la nature? Est-ce qu'on peut, en gros, ne pas jeter la nature avec l'eau du bain naturaliste? Pour Haraway, nous vivons aujourd'hui l'époque du cyborg qui constitue à la fois notre ontologie et notre politique. En fait, elle explique que du fait de cette intrication de domaines ontologiques qui jusque-là étaient distincts, la séparation radicale de la nature et de la culture n'est plus d'actualité. Et que donc, en fait, les stratégies pour lutter contre le sexisme et le racisme n'impliquent plus de lutter contre leur naturalisation, puisqu'en fait, les arguments naturalistes et biologiques apparaissent aujourd'hui irrationnels. Pourtant, quand on étudie les rhétoriques antiféministes, on voit qu'elles continuent, pour certaines, à mobiliser la rhétorique naturaliste. C'est très visible, notamment dans les débats autour des droits reproductifs et de l'autonomie corporelle des femmes et des personnes LGBTQIA+. Je me suis notamment intéressée à la question de l'avortement. Alors, en 2022, de très nombreuses personnes dans le monde ont réalisé à quel point l'avortement était menacé après l'abrogation de l'arrêt Roe versus Wade aux États-Unis. Donc là, c'est des images que je vous ai mises de ce moment-là. Donc, beaucoup de personnes ont été très choquées par cet événement et ont pris conscience de la présence et de la vitalité des mouvements anti-choix. Pour ma part, j'avais ressenti ce sentiment de stupéfaction, à la fois d'effroi et de... et de colère, quelques années auparavant, la rencontre que j'ai faite avec des collègues à l'Université de Paris 1, notamment Alexandrine Guyard-Nedelec, qui avait sorti avec Laurence Brunet ce livre « Mon corps, mes droits à l'avortement menacé », qui fait un panorama des limites du droit à l'avortement dans les pays européens. Et en parallèle, j'ai vu ce documentaire « Avortement, les croisés contre-attaques », qui est un documentaire qui présente un peu le lobbying des mouvements anti-choix au niveau de l'Union européenne. Ce qui m'avait frappé, c'était notamment que, par exemple, dans un pays comme l'Italie, il y a certaines régions où plus de 90% des médecins sont objecteurs de conscience, donc refusent de pratiquer l'avortement, même dans le cas où la vie de la personne est menacée. Donc voilà, quand j'ai pris conscience, en fait, parce que si vous voulez, pour moi, l'avortement, c'était un acquis des féministes de la deuxième vague. Enfin, je pensais vraiment que personne n'allait contester l'avortement. J'avais pas du tout conscience de la puissance, de la vitalité et de ces mouvements anti-choix. Et c'est vrai que j'ai été assez frappée, et c'est ça qui m'a un peu donné envie de me recentrer un petit peu là-dessus. Pour illustrer cette vitalité, dans le documentaire dont je vous ai parlé, il était question notamment du mouvement des survivants, donc qui sont en photo, qui se présentent. Voilà, ils sont 4 sur 5, puisque donc un enfant sur 5 est avorté. Donc ils sont les survivants, puisqu'ils font partie des 4 sur 5 qui survivent à l'avortement. Ce même groupe a acheté, avant la mort de Simone Veil, le nom de domaine simoneveil.com, ce qui fait qu'à la mort de Simone Veil, en fait, quand on cherchait Simone Veil sur Internet, le site Simone Veil était un site anti-choix, dont j'ai mis une capture d'écran ici. Récemment encore, très récemment, hein, cette année, il y a eu une campagne de mouvement anti-choix sur les Vélib à Paris. Ça a eu aussi lieu à Lyon sur les vélos en libre-service, avec... et si vous l'aviez laissé les vivre, avec cette espèce d'esthétique Vélib. Donc voilà, en fait, on voit qu'il y a vraiment une vitalité, un activisme des mouvements anti-choix qui s'accompagne d'une véritable campagne idéologique de désinformation qui contribue à stigmatiser l'avortement. Dans cette campagne, on peut dire il y a le fait de se dire pro-vie et de présenter donc l'avortement comme un crime, alors que sans avortement, les femmes meurent d'avortement clandestin. Hein. Stigmatiser et culpabiliser les personnes qui ont recours, désinformer sur les délais et les risques, par exemple dire qu'il est dangereux pour la santé, dangereux pour la fertilité. Aussi le présenter comme nécessairement traumatique. Là, je pense notamment à Emmanuel Macron qui avait dit que l'IVG était toujours un drame. Et la rhétorique raciste du grand remplacement, avec l'idée que les femmes blanches ne doivent pas avorter parce qu'elles ont un devoir démographique envers leur race. Ces discours vont de pair avec des difficultés réelles d'accès à l'avortement. puisque si la loi l'autorise en France jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée pour l'IVG, l'avortement reste dans beaucoup de cas un parcours de combattante. Hein. Déjà, il y a une inégalité d'accès à l'IVG sur le territoire. Les médecins sont mal, voire pas formés pour pratiquer l'IVG. L'IVG est mal remboursé, donc beaucoup de cliniques privées s'en désintéressent. Et il y a la fameuse clause de conscience dont j'ai déjà parlé. Dans ce contexte, j'ai ressenti la nécessité de nous défendre, enfin qu'on se défende plutôt, collectivement, notamment sur le plan idéologique. L'idée, c'était de comprendre la racine des discours anti-choix, d'analyser les débats autour de l'avortement et de sa dépénalisation, pour comprendre en fait comment et pourquoi on pouvait en être encore là aujourd'hui, alors que pour beaucoup d'entre nous, l'avortement s'apparaissait un acquis du passé et un droit qu'on ne contesterait pas. Alors dans la lignée de ma thèse, parce que j'étais formée à ça, j'ai utilisé la philosophie du langage et l'analyse de discours pour mettre en évidence la prégnance et ou la refonte des discours naturalistes qui assignent les femmes à la reproduction, donc qui font de l'avortement un acte contre nature, une intervention artificielle dans un processus naturel, donc parce qu'il est contraire à l'ordre naturel, il a nécessairement des conséquences négatives sur les plans physiques, psychiques et reproductifs. D'après Bérangère Marquez-Pereira, je vous ai mis la couverture de son livre sur l'avortement en Europe, se développe actuellement une nouvelle génération d'anti-choix qui sont anti-genre. Alors ça, c'est très important parce que, en fait, il me semble qu'analyser la rhétorique naturaliste des anti-choix permet de les mettre en lien aux anti-genres, et ce qui est important puisque dans le contexte actuel, on a des personnes qui se présentent comme féministes, qui considèrent qu'elles sont pour l'avortement, mais qu'elles sont anti-genre. Je pense notamment à ces attaques contre le planning familial, où des personnes disent en fait que le planning familial s'est détourné de sa vraie vocation, qui était de défendre le droit à l'avortement et à la contraception des femmes, et qu'il a été que le planning familial donc doit être définancé parce qu'il est noyauté par des transactivistes. Donc, on voit que c'est quand on met l'accent sur la rhétorique naturaliste, en fait, ça permet de comprendre le lien entre ces discours anti-genre et ces discours anti-choix et de défendre l'autonomie corporelle, le droit des personnes à choisir pour elles-mêmes et à disposer de leur corps. Ça permet aussi, et j'aurai pas le temps d'en parler beaucoup, mais de comprendre l'antiféminisme des nouveaux féminismes. Je pense notamment au nouveau féminisme auquel appelle le Saint-Siège, qui en fait se présente comme un féminisme qui en fait renoue complètement avec la naturalisation des rôles de mère et d'épouse, etc. Donc ça, c'est le premier axe, le premier outil. Le deuxième outil, c'est un outil plus généalogique. Du coup, l'idée, c'est de faire une généalogie des discours qui ont historiquement, en France, entouré la dépénalisation de l'avortement pour restituer les débats, les enjeux et comprendre à quoi nous avons droit exactement. Alors, pour ça, j'ai travaillé en archives. J'ai beaucoup mobilisé les travaux d'historiennes, notamment Bibia Pavard, qui a fait un travail énorme sur la période de la dépénalisation. Et j'ai aussi fait une collecte de récits de vie. Et une collecte de récits de vie avec des militantes du droit à l'avortement des années 70 en France. Donc là, j'ai mis quelques photos. Donc ça, c'était dans le cadre d'un projet postdoctoral que j'ai fait à Nanterre Université. J'ai suivi la méthodologie des archives orales en partenariat avec l'association Archives du Féminisme. J'ai rejoint donc le projet Témoigner pour le Féminisme de la commission audiovisuelle de l'association. Et j'ai réalisé dans ce cadre donc, 12 entretiens de type récits de vie, des entretiens filmés donc, qui étaient... selon les personnes, très peu directifs ou un petit peu plus, mais en tout cas, l'idée, c'est que je les interrogeais, mais l'idée, c'est qu'elles déroulaient leur parcours biographique, autobiographique devant la caméra. Mon hypothèse, quand j'ai fait ce travail, c'était une hypothèse que je tirais de ma lecture du travail de sociologie de Marion Charpenel, qui a travaillé sur les mémoires féministes, où elle montre en fait que du fait de la politisation de l'intime dans les groupes féministes, du fait de la mise en place de groupes de parole, etc., il y a eu vraiment une habitude des militantes à exposer leur trajectoire biographique. Elle parle même d'un encadrement réciproque des discours biographiques et donc d'une homogénéisation des souvenirs des militantes. Donc en fait, mon idée, c'était d'aller voir un peu ce que les personnes disent de leur vie, parce que en fait, quand elles témoignent de leur vie individuelle, elles témoignent aussi d'une époque et d'un collectif. Alors, cette recherche a eu deux conséquences. La première, c'est que replonger dans cette histoire, rencontrer ces militantes, notamment des militantes du planning, m'a donné envie de militer moi-même au planning. Donc, je suis devenue animatrice au planning de Saint-Denis depuis 3 ans maintenant. Et je trouvais ça intéressant à dire dans cette journée parce que, en fait, comme je l'ai un peu expliqué, c'est la politique qui m'a amenée à cet objet de recherche. Et en fait, ensuite, la recherche m'a donné envie de m'engager davantage et autrement. Donc ça, c'est la première conséquence, on va dire, pratique et de vie. La deuxième, c'est des conséquences théoriques, donc quelques résultats là, que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous présente les résultats qui sont importants pour maintenant, même si voilà, il y en a d'autres. Le premier, c'est que comme, en fait, ce qu'on voit à l'époque, c'est que le mouvement féministe n'est pas du tout unifié, hein, comme il l'est d'ailleurs toujours, mais il n'est pas unifié, qu'en fait, l'avortement va être mobilisé comme une... va faire mouvement. C'est ce que dit Bibia Pavard, c'est qu'en fait, on va avoir vraiment une... Et c'est ce qu'on voit aussi là dans cette archive de l'INA dont je vous ai mis un extrait. On voit à la toute fin l'avortement est mobilisé, la lutte pour l'avortement est mobilisée comme une revendication tactique. Donc il y a un peu cette idée que en fait l'avortement fait à la fois fait pas consensus parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui y sont opposés, mais il y a aussi quand même une évidence. Enfin tout le monde, là c'est ce que me disent mais les personnes que j'ai interviewées, en fait quasiment tout le monde dans son entourage connaît une personne qui est morte des suites d'un avortement clandestin. Donc en fait il y a quand même un climat social. Danielle Gaudry, donc qui est médecin militante au planning par exemple, dit que on ne craignait pas la répression, on était porté par le climat social. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que l'avortement va faire mouvement. Deuxième résultat, c'est qu'il y a tout un débat sur la question, la présence ou non des médecins. Est-ce que l'avortement va être médicalisé ou non? Il me reste combien de temps? 7 minutes. Bon, du coup, je ne vais pas forcément développer longtemps là-dessus. Parce que c'est assez connu, et on peut penser notamment au travail de Lucille Ruault, qui a pas mal travaillé sur la question de la médicalisation ou pas de l'avortement et les pratiques des MLAC. Donc je vais venir à autre chose, ce qui est comment, parce que ça m'intéresse plus là pour aujourd'hui, comment l'avortement est pensé, puisqu'en fait il est, comme le dit Bibia Pavard, hein, quand l'IVG est dépénalisée, la loi a pour vocation de mettre fin aux avortements clandestins et dangereux pour la santé des femmes, et aux avortements militants qui sont pratiqués au vu et au su de tout le monde dans un cadre non médical. Mais donc on voit qu'il y a vraiment cet argument à la fois de... Le législateur est ridicule parce que l'avortement n'est pas légal, mais en fait, plein de gens font des avortements et le disent haut et fort. Et ensuite, il y a l'argument de la santé, puisque énormément de femmes meurent à cette époque d'avortements clandestins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt donc, pour cette raison-là que l'avortement va être dépénalisé, alors que quand on voit les mobilisations féministes, elles revendiquent l'avortement, enfin, il y a cet aspect de santé, mais il y a aussi vraiment l'idée que l'avortement est fondamental, est la base de la lutte féministe et de l'égalité. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la présentation de l'avortement sur le site du planning là, que je vous ai mis, où on voit que le droit des femmes à vivre leur sexualité sans procréer, à être enceinte ou pas, est la condition première de leur égalité avec les hommes. C'est ce qu'on retrouve dans ce manifeste des 343, donc c'est un manifeste signé par 343 femmes, qu'elles soient connues et moins connues, dans le Nouvel Observateur, où elles disent qu'elles ont avorté. Et on voit là, j'ai mis en gras les éléments qui me paraissaient les plus frappants. On voit qu'en fait, elles considèrent vraiment que l'avortement est l'exigence la plus élémentaire et la base du combat politique, que c'est leur pouvoir politique. Et un peu plus bas, on voit qu'elles disent « L'usage de notre corps n'a pas à être réglementé. Nous ne voulons pas une meilleure loi, nous voulons sa suppression pure et simple. » Donc en fait, elles militent vraiment pour un avortement qui serait totalement libre, qui ne serait pas du tout encadré, limité, notamment qui n'aurait pas de délai. Alors que à cette époque, en fait, même donc ça c'est les militantes féministes, hein, mais en fait même les personnes qui vont les sommités, voilà, politiques, etc., qui vont défendre l'avortement, pour beaucoup ne sont pas du tout partants pour un avortement libre et gratuit. C'est ce qu'on voit là dans ce débat qui a lieu sur Actuel 2 en 72 entre Delphine Seyrig, donc militante féministe et actrice très connue, hein, Neuwirth, et notamment celui qui a promu la contraception, et on voit qu'ils sont clairement pas d'accord là, dans cet extrait que je vous ai mis, sur le fait que pour Delphine Seyrig, l'avortement, c'est un problème de liberté personnelle pour la femme, alors que pour Neuwirth, c'est un problème de manque d'informations liées à la contraception, que du coup, l'avortement devrait être éradiqué par un meilleur développement de la contraception. La dépénalisation de l'avortement traduit ces conflits et ces oppositions, lorsque l'avortement est dépénalisé, c'est dans un cadre médical strict, avec un terme au-delà duquel ce n'est plus possible. Il y a aussi un délai de réflexion qui aujourd'hui est abrogé, hein, sauf pour les mineurs, et il y a tout un débat sur son remboursement partiel ou total par la Sécurité sociale. Alors là... c'est ce qui explique en fait l'avortement est donc dépénalisé mais de manière extrêmement limitée, et c'est pour ça que de nombreux MLAC, mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, notamment ceux sur lesquels Lucille Roux a travaillé, vont vraiment poursuivre la pratique des avortements une fois la loi passée. Pour faire le bilan un peu de la dépénalisation, donc de ce que nous apprend un peu tout ce travail dans les archives, ce travail d'entretien, on voit que la loi française a construit l'avortement comme le dit la juriste Lisa Carayon, une liberté consentie aux femmes, mais non comme un droit qui leur serait garanti. C'est une exception à un principe de protection de la vie, une concession accordée aux femmes. Pour Lisa Carayon, c'est ce qui explique qu'il y a un délai, hein, puisqu'elle dit qu'on soit d'accord avec ou pas sur le plan moral, sur le plan éthique, au niveau juridique, l'avortement fait vraiment exception. Il n'y a aucun autre cas où on impose à un parent de donner ne serait-ce qu'une goutte de sang pour son enfant. Déjà, on peut contester le fait de considérer le fœtus comme un enfant, la personne qui le porte comme un parent avant la naissance, mais de toute façon, légalement parlant, l'avortement fait vraiment exception. Cette construction juridique française de la dépénalisation de l'avortement comme résultat d'un compromis entre deux intérêts, celui du fœtus et celui de la femme, ou deux grands principes, vie versus liberté à disposer de disposer de son corps, se retrouve dans la plupart des pays européens qui autorisent l'avortement. C'est ce que souligne Bérangère Marquez Pereira, qui dit qu'il n'y a aucun... Voilà, que, c'est la troisième citation. L'examen de l'accès à l'avortement montre qu'aucun pays, fût-il le plus permissif, ne reconnaît aux femmes la libre disposition de leur corps, comme l'ont réclamé les mouvements féministes depuis les années 70. Donc à partir de là, c'est la question que je me pose maintenant. Est-ce que ces revendications féministes qui touchent au corps peuvent se traduire dans le domaine juridique, et si oui, avec quels outils? Alors, pour répondre à cette question, il implique déjà de clarifier le sens des revendications féministes concernant le corps. Qu'est-ce que cela signifie, disposer librement de son corps? Qu'est-ce que cela implique de fonder le droit de choisir sur la possession de son corps? Et est-ce qu'en disant « mon corps, mon choix », et est-ce qu'en faisant du corps une propriété individuelle, les féministes ne vont pas reconduire la vision objectifiante du corps des femmes contre lesquelles elles cherchent à lutter? J'arrête. Ouais, ok. Bah, du coup, donc ça, c'est mon premier chantier, c'est d'analyser des slogans et de voir qu'est-ce qui est porté. Le deuxième, c'est de travailler avec la Fédération des plannings familiaux à Bruxelles pour faire un podcast autour de récits de vie de personnes ayant vécu des avortements. Et pour finir, c'est d'interroger à partir de là la possibilité de traduire en droit les approches féministes de l'avortement. Donc il y a le débat, est-ce que les droits reproductifs sont des droits humains? L'avortement comme droit créance et droit liberté, donc un droit que l'État doit non seulement garantir mais aussi protéger, intégrer les droits reproductifs dans un cadre plus large, et pour finir, et ça c'est vraiment le cadre théorique dans lequel je développe ma réflexion, c'est le cadre théorique de la justice reproductive qui en fait essaye de considérer, de sortir du paradigme trop individualiste pro-choix pour problématiser de manière plus intersectionnelle la question de la reproduction des droits reproductifs dans un cadre structurel plus large, ce qui implique non seulement ce qui permet en fait de penser toutes les injustices reproductives dont sont victimes énormément d'autres populations que les femmes cis blanches hétéros, à commencer par les stérilisations forcées, la possibilité ou non d'élever son enfant, de le garder, d'avoir des enfants aussi, donc il y a un peu toute cette perspective qui permet de faire de se développer, qui se développe notamment dans une perspective environnementale, ce qui me rattache à la question de la nature. Merci beaucoup, désolée d'avoir dépassé.
Donc là, vu que je vous propose de consacrer une vingtaine de minutes aux questions,